nous sommes bien en face de circonstances exceptionnelles qui légitiment la mobilisation de nous, de tous, et donc celle des pouvoirs publics. Deuxième écueil, qui justifie largement la réunion d'aujourd'hui, consisterait à réagir dans l'improvisation et en ordre dispersé. Ça fait plusieurs années que la filière automobile est malmenée par la mondialisation. La crise vient ajouter, en réalité, à cet état de fait. Nul ne peut croire que dans cette épreuve, l'un sera sauvé contre l'autre. Nul ne peut escompter s'en sortir seul. Il faut que tous les acteurs de la filière soient associés à l'effort général. Troisième écueil, il consisterait à rester focalisé sur le court terme. Si nous répondons à la crise au coup par coup, sans penser l'avenir à long terme de la filière, alors nous nous exposons à un retour de bâton extrêmement brutal. Il faut permettre à notre industrie automobile de se transformer maintenant pour pouvoir se relancer de façon durable. Vous devez être en mesure de prendre le prochain virage industriel en tête de la course. Ce prochain virage industriel, c'est celui du véhicule propre, voire à terme, du véhicule 100% automatisé et 100% recyclable. Enfin, le quatrième écueil, ce serait de vouloir mobiliser les moyens publics et les ressources de la nation sans aucune contrepartie et sans aucun contrôle. Parce que, je le dis, la nation ne peut pas être appelée à la rescousse sans condition. Alors ces quatre écueils, mesdames et messieurs, je pense que les états généraux de l'automobile peuvent nous permettre de les éviter. Ils constituent une nouveauté dans notre manière de faire face à la crise. Je pense que c'est une des rares fois, une des premières fois où, face à une crise, avant de prendre des décisions extrêmement importantes pour l'avenir d'une filière, on fait ensemble ce travail de concertation. Je veux remercier Luc Châtel et toutes ses équipes de les avoir organisées dans un délai record. Et je veux vous dire naturellement que ce sont vos travaux qui vont nourrir les décisions du gouvernement qui vont être annoncées dans les prochains jours. Alors on ne part pas de rien. On a pris déjà un certain nombre de mesures d'urgence. D'abord, il y a eu le bonus-malus mis en place depuis un an et qui avait permis au marché français de se maintenir en 2008 alors que le marché européen dans son ensemble décrochait. Aujourd'hui, le financement des filiales bancaires de Renault et de PSA à hauteur de 500 millions d'euros chacune et l'augmentation de la prime à la casse en décembre 2008 ont permis d'enregistrer des résultats encourageants. Le marché français a mieux résisté que d'autres en Europe. Nous avons réussi à ne pas tarir la pompe de la demande et je crois que les commandes de véhicules ont augmenté de façon importante en décembre pour PSA comme pour Renault. Dans le cadre de la loi de finances pour la relance qui est en discussion, cher Patrick Devedjian, au Sénat cette semaine, nous allons assouplir encore les conditions d'accès des filiales bancaires de Renault et de Peugeot au dispositif de refinancement public qui a été mis en place avec la Société de financement de l'économie française. Autre mesure d'urgence qui va faire l'objet d'une signature dans quelques instants, c'est le fonds d'investissement sectoriel automobile de 300 millions d'euros dont l'objectif est de renforcer les équipementiers stratégiques et de faire émerger des acteurs de taille européenne ou mondiale. Ce fonds commencera à intervenir dès la fin du mois. Je disais tout à l'heure que nous allons signer un protocole d'accord entre Renault, PSA et le Fonds stratégique d'investissement. L'ambition, c'est de reproduire pour l'automobile le succès enregistré dans la consolidation de la filière aéronautique l'année dernière grâce à la mise en place d'un fonds du même type. Ces mesures sectorielles s'ajoutent naturellement aux mesures transversales, notamment celles destinées au financement des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement mobilise donc la plupart des leviers d'action qui sont à sa disposition dès maintenant, tout en disant clairement qu'il va falloir aller plus loin compte tenu de la gravité, de l'ampleur, du caractère exceptionnel de cette crise. C'est le sens des travaux que vous allez conduire tout au long de cette journée. C'est aussi dans ce sens que nous nous mobilisons à l'échelle européenne. Aucune réponse ne sera complète si elle n'est pas totalement coordonnée à l'échelon de l'Union européenne. Nous sommes donc décidés à promouvoir une action concertée avec la Commission européenne, Monsieur le Vice-président, notamment sur la question cruciale de l'accès aux liquidités. J'espère que nous allons pouvoir aboutir rapidement sur ce sujet. Je vais dire les choses très simplement. Ou bien le système bancaire finance normalement l'industrie automobile. Normalement, ça veut dire à des conditions de taux qui soient normales et avec des volumes qui correspondent aux besoins de cette industrie. Et alors, tout va bien. Mais enfin, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Ça fait déjà, M. Gauche, près de 2 mois que vous êtes venu me voir pour me dire que le système était bloqué. Je constate qu'il ne se débloque pas. Et franchement, on ne va pas attendre encore 3 mois pour savoir si ce système se débloque. Deuxième solution, la Banque Centrale Européenne fait ce que fait la Banque Centrale des États-Unis. On me dit que ce n'est pas possible, qu'il y a des tas de raisons pour que ça ne soit pas possible. Très bien, alors à ce moment-là, ce sont les États qui vont faire. Ils vont le faire naturellement en coordination avec l'Union européenne, et nous attendons de ce point de vue que la Commission se prononce, mais je dis tout de suite qu'on ne va pas attendre 3 mois. On ne va pas reproduire ce qui s'est passé pour le plan de financement des banques. Quand il y a un incendie, quand il y a une urgence, il faut agir, et il y a un moment où la doctrine est très intéressante, mais où la doctrine ne permet pas de sauver le malade. Et en l'occurrence, je vous le dis, je pense que tous les gouvernements européens partagent cette opinion. Nous n'attendrons pas. Il y a une urgence. Nous avons besoin d'une réponse massive s'agissant du financement de la filière automobile. Notre défi, je veux à nouveau insister là-dessus, c'est pas seulement de limiter l'impact de la crise, c'est de donner un avenir à la filière automobile. Et pour cela, il faut se projeter dès à présent dans le monde de demain et accélérer les évolutions nécessaires. Avec la mondialisation, la dégradation de la compétitivité relative de l'industrie automobile française est une réalité. Si nous n'avons pas le courage de regarder cette vérité en face, alors nous allons commettre une erreur historique. Des restructurations importantes sont nécessaires pour restaurer la compétitivité des équipementiers et des sous-traitants. C'est une condition vitale pour que la filière se consolide et pour que notre industrie reparte sur de nouvelles bases. C'est donc une culture d'anticipation collective des évolutions de la filière que nous devons développer. La charte automobile qui a été signée l'été dernier entre les représentants du secteur, les entreprises et l'État est un bon outil. Il faut l'utiliser, il faut la décliner au plus proche du terrain. Notre priorité permanente, c'est d'anticiper les mutations, c'est de former les personnels aux nouveaux besoins. C'est à ce travail, à ces objectifs que nous sommes, sur lesquels nous sommes mobilisés. Il faut aussi que les relations au sein de la filière repartent sur de bonnes bases. Une stratégie d'achat de la part des constructeurs qui serait fondée sur la recherche quasi exclusive des coûts les plus bas, ça n'est pas durable. Le profit de court terme est rarement compatible avec la compétitivité de long terme. Et de ce point de vue, j'appelle chacun à tirer les enseignements de la crise financière qu'on vient de connaître. Il y a bien un rapport entre la recherche d'un profit à court terme excessif et puis la crise que l'on vient de connaître. Ce qui est valable pour l'industrie financière l'est aussi pour l'industrie automobile. Et j'appelle à la véritable refondation du pacte automobile entre les constructeurs et l'ensemble de la chaîne, en amont et en aval. Cette refondation est nécessaire à la survie de la sous-traitance sur notre territoire. Elle l'est aussi à la compétitivité de l'ensemble de la filière, constructeurs compris, sur le long terme. Enfin, il serait... C'est pas à qui s'adressent les applaudissements. Enfin, il serait suicidaire que l'effort d'innovation fasse les frais de la crise. L'industrie automobile européenne est bien placée dans la course aux véhicules du futur. Eh bien, cette place, il faut la renforcer. Un plan de soutien au développement du véhicule décarboné, doté notamment de 400 millions d'euros pour la recherche, a été élaboré par le gouvernement. La réforme du crédit impôt recherche a permis de multiplier par 3 l'effort public à la recherche et développement privé. Les pôles de compétitivité ont permis de faire évoluer les comportements en favorisant la mutualisation des efforts de recherche. Et les premières briques du plan véhicule décarboné ont été mises en place. Les pouvoirs publics ont donc pris leurs responsabilités. La réponse à ces initiatives ne peut pas être on prend et on délocalise. Il faut maintenant que les industriels prennent aussi leurs responsabilités et saisissent les opportunités qui s'ouvrent. J'attends beaucoup de ce point de vue des travaux que vous allez conduire. Je souhaite qu'ils enrichissent les principes qui vont guider l'action du gouvernement. Et je voudrais simplement évoquer pour terminer ces principes. Le premier, la filière automobile ne se résume pas aux constructeurs. Nous devons trouver des réponses qui soient adaptées à chaque maillon de la chaîne et notamment aux maillons les plus stratégiques. Deuxième principe, pas d'effort de l'État sans engagement des constructeurs. Notre effort en faveur des constructeurs va être massif. De quoi parle-t-on ? De sommes qui sont de l'ordre de 5 ou 6 milliards d'euros. Nous attendons donc, en contrepartie, que leurs engagements soient exemplaires, tant sur les volumes de production en France qu'en termes de relations vis-à-vis de la chaîne de la sous-traitance. Il n'est pas question, je le dis très simplement, mais très fermement, que l'État vienne en aide à un constructeur qui déciderait purement et simplement de fermer un ou des sites de production en France. Ces états généraux, mesdames et messieurs, doivent être le prélude à une refondation de la filière. Dans l'urgence, nous devons nous rassembler et innover. Une part de l'intérêt national est en jeu. Ceux qui croient que la crise sera passagère et que tout pourra reprendre comme avant sous-estiment les ruptures qui sont en train de s'annoncer. Et ceux qui croient pouvoir faire cavalier seul seront tôt ou tard un moment rattrapés par la crise. La France ne laissera pas tomber son industrie automobile, mais cette industrie doit en retour faire preuve d'une grande responsabilité. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire pour ouvrir vos travaux. Je pense que cette journée va être une occasion décisive pour tracer les contours d'un nouveau départ pour l'industrie automobile française. Au fond, on est en train de tirer les enseignements des erreurs du passé. Il y a eu des époques où on considérait que quand un secteur industriel était en difficulté, après tout, c'était normal, c'était un phénomène historique, l'avenir des pays développés, c'était un avenir sans industrie. Je me souviens même d'un grand chef d'entreprise qui avait parlé des grandes entreprises sans usine. La vérité, on a vu que c'était évidemment tout le contraire, que les pays développés avaient un besoin crucial de maintenir une force de production, de maintenir une industrie puissante. Quand il n'y a pas d'industrie, il n'y a aucune chance de maintenir ensuite les autres secteurs de l'activité. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de réagir différemment de ce que nous avons fait dans les crises précédentes. Eh bien, je compte naturellement sur vous, sur votre mobilisation, sur votre inventivité, sur votre sens des responsabilités, parce que je crois que c'est un même sentiment d'urgence qui nous presse, et c'est donc une même volonté d'agir qui nous guide.